Merci beaucoup les musiciens, Dieu vous bénisse. Bonjour à tous.
Bonjour.
Ça va bien, oui, il fait beau, il fait chaud, la vie coule comme une chanson. J'espère que vous allez bien, vous qui nous rejoignez sur le net. Dieu vous bénisse. Ce matin, je vais revenir sur quelque chose que j'ai prêché il y a déjà quelque temps, mais avec un peu plus de profondeur encore, parce que vous savez qu'avec le temps, eh bien, on apprend des choses, on s'approfondit et on développe une connaissance qu'on n'avait pas. Ben moi, je suis Michel Jonton, mais j'ai quand même progressé depuis 20 ans. Éphésiens 3:20, je lis. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les siècles, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse cette parole, qu'elle nous fasse du bien ce matin. Ce n'est pas de la pensée positive que je vais vous faire ce matin, mais je vais vous parler du pouvoir de la pensée quand même. Parce que Dieu nous a créés pour que nous pensions. Pas pour que nous pensions, mais avec le pouvoir de penser. Et ça n'est pas rien du tout. Vous pouvez librement choisir vos pensées, mais dans les résultats de vos pensées, il faut que vous sachiez qu'il y a des lois. Votre vie n'est pas soumise à des caprices ou à des variabilités, je ne sais pas si ça se dit, d'aucune sorte. Il n'y a pas de, caprice. La stabilité des lois de la pensée, c'est une chance, c'est une bénédiction. Parce qu'en vous conformant à la loi immuable de la pensée, c'est Dieu qui a créé la pensée, eh bien nous pouvons obtenir l'effet que l'on désire et même plus encore, mais avec une précision qui est absolument invariable. Dieu a très très bien fait les choses. Et il y a des lois pour tout, absolument pour tout. La loi de Dieu, c'est le gardien de l'univers. Sans cette loi, l'univers serait un chaos au lieu d'un cosmos. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire exactement cosmos? Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'étais à la boulangerie, j'ai demandé à la boulangerie. Non, j'ai pris un dictionnaire. J'ai rien contre les boulangers, mais je vais vous faire comprendre qu'il faut prendre un dictionnaire très souvent. Et j'ai regardé, le mot cosmos signifie système bien ordonné. Par qui? Je vous révèle quelque chose d'important. C'est là que se situe, en réalité, le secret de l'origine du bien et du mal. Dans ce que je vais vous révéler. La pensée se traduit toujours en action. Si votre pensée est constructive et harmonieuse, il en résultera le bien. Et vous porterez beaucoup de fruits. Si votre pensée est destructive et négative, il en résultera le mal. C'est pas plus compliqué. En fait, il n'existe qu'une loi, un principe, une source de pouvoir. Le bien et le mal sont simplement des mots qui ont été inventés pour indiquer le résultat de notre action, de nos actions, qui proviennent toujours de nos pensées. On ne fait pas des choses sans y penser, à moins d'être un peu foulo. Parce qu'il y en a, hein. Pour indiquer donc le résultat de notre action. Ou si vous préférez, le bien et le mal indiquent les résultats de notre conformité ou non conformité à la loi créée par Dieu. Il y a une loi au sujet de la pensée et si on n'observe pas cette loi, eh bien, il en résulte des choses qui ne sont pas bonnes. Si on observe les lois de Dieu au sujet de la pensée, comme de tout, eh bien, il résulte le bien. Je vais vous dire quelque chose de bizarre. Si vous détestez le mal, votre vie sera une longue liste de dissensions et de désaccords perpétuels. Pourquoi ? Parce que vous détestez. On n'a pas à détester le mal. Je ne dis pas qu'il faut aimer le mal non plus. Mais n'y pensez pas, puis c'est tout. N'y pensez pas. Next. Si on entretient des pensées destructrices, nous semons le vent et on va récolter la tempête. C'est pourquoi la Bible dit « ne soupçonnez pas le mal ». Même si tu vois quelqu'un ou quelque chose, ne jugez pas. Next. Dieu a fait que la pensée soit un principe essentiel. C'est le principe créateur de l'univers. Parce que vous croyez que Dieu a créé l'univers sans y avoir pensé d'abord ? Allons. C'est le principe créateur de l'univers qui, par nature, se combine avec d'autres pensées semblables. Toutes vos pensées persistantes, je ne dis pas les pensées qui vous traversent l'esprit, il y a des pensées des fois parasites qui vous traversent l'esprit, mais bon, ben ça n'a pas d'incidence. Mais toutes les pensées persistantes ne peuvent que produire ce résultat. Dans le caractère, dans la santé, dans les circonstances, etc., etc. La Bible nous enseigne des méthodes qui nous permettent de substituer des habitudes de pensée constructives à celles qui ne produisent que des effets négatifs et destructeurs, indésirables. Toutes les bonnes lois de Jésus, c'est pour nous aider à penser juste, à penser bien, afin de porter du bon fruit. Je vous raconte ça depuis des années, mais la plupart, vous ne m'écoutez pas, ou vous ne croyez pas cela, et puis il y a aussi ceux qui pensent que wow, c'est pas possible, ou alors il y en a qui ont la flemme, parce que ça demande quand même des efforts. Ah oui, ça demande des efforts. Si nous sommes de bonne volonté, qu'est-ce que les anges ont dit ? Paix aux hommes, mais aux femmes aussi, de bonne volonté. Paix aux hommes de bonne volonté. Si nous sommes de bonne volonté, nous pouvons faire, avec l'aide du Saint-Esprit qui vient en nous, de bonnes choses et contrôler nos pensées. Mais le Saint-Esprit ne nous forcera jamais, jamais. Pourtant, il est tout puissant, il pourrait le faire, mais il ne le fait pas, il est très poli. Il faut commencer à faire soi-même, c'est-à-dire à substituer immédiatement une pensée constructive à une pensée destructive. Il faut le faire soi-même. Alors, prenez l'habitude d'analyser vos pensées. Je ne vous dis pas de faire de l'introspection, mais quand vous avez une pensée, demandez-vous est-ce que c'est bien nécessaire ? Est-ce que c'est bien nécessaire, ce que je pense là ? Est-ce que c'est nécessaire pour moi ? Est-ce que c'est nécessaire pour les autres ? Est-ce que ça va produire du bien ? Est-ce que ça vaut la peine de penser ça ? Si la pensée que vous avez est nécessaire, alors gardez-la. Appréciez-la, chérissez-la. Elle est précieuse, elle est en accord avec la création de Dieu. Elle va croître, elle va se développer, elle va produire des centaines de bons fruits. Un autre travail à faire, c'est de tenir la porte fermée, à éloigner de votre esprit de votre bureau, de votre milieu, les éléments ou les personnes qui cherchent à influencer vos pensées pour en faire des trucs négatifs ou pas en ordre avec Dieu. Il y a des gens toxiques, si on ne peut pas vraiment s'en éloigner, ben faut plus ou moins les, faut les ignorer, faut dire bon ben voilà. C'est là que l'imagination se révèle une grande aide. La culture de votre imagination mènera au développement de l'idéal qui arrivera dans votre futur. L'imagination, ça c'est quelque chose qui est créé par Dieu. L'imagination. L'imagination, c'est la lumière par laquelle nous pouvons pénétrer dans un nouveau monde de pensée, donc d'expérience. L'imagination, c'est l'instrument puissant par lequel chaque explorateur, chaque inventeur a ouvert la voie qui a mené du précédent à l'expérience. Le précédent disait, ça peut être fait. L'expérience dit, c'est fait. Et Jésus va plus loin et dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu, c'est fait. Alors entrez dans la louange, louez le Seigneur pour ce qui est fait, même si vous ne le voyez pas. Imaginez que c'est fait. Jésus vous donne l'ordre et le pouvoir de faire ça. L'autre jour, je regardais des constructions, des bâtiments sur le net. Et je pensais, l'entrepreneur, il n'a pas pu construire ça tant qu'il n'avait pas les plans de l'architecte. Et l'architecte, il a obtenu ses plans en faisant marcher son imagination. Il a dit, tiens, on va faire ça comme ça, comme ça. Bon, il a fait des études aussi. Et l'étude de la parole de Dieu, c'est pas une chose interdite. Bien au contraire, je vous dis de l'étudier. Mais à partir de l'étude, vous pouvez avoir de bonnes réflexions et une bonne imagination pour faire ce que vous avez à faire, ce que vous voulez faire. Vous savez, un disciple de Jésus doit être entièrement convaincu et conscient du fait que l'Esprit Saint est créateur, qu'il est omniprésent, qu'il est omniscient, il sait tout, et que vous pouvez consciemment entrer en harmonie avec lui, en communion avec lui, par le pouvoir de votre pensée. Si vous ne pensez jamais au Saint-Esprit, si vous pensez qu'à aux informations que vous voyez à la télé, ou si vous pensez que voilà, ce soir il y a la lune rouge, puis vous pensez qu'à ça, qu'est-ce que ça va faire, et puis vous occupez vos pensées avec des trucs, le feuilleton, les machins. Il faut entrer en communion avec lui par la pensée. Pensez aux choses de Dieu. Cultivez votre pensée avec les choses de Dieu. Apprenez les choses de Dieu en lisant la Bible. Vous allez voir comment certains hommes ont fait certaines choses, certaines femmes ont fait certaines choses, et puis ça a donné tel résultat. Ça va vous apprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tout ça, ça a été écrit pour notre instruction. Le Saint-Esprit créateur est en vous, et le pouvoir donc vient de l'intérieur de vous, puisqu'il est en vous. Mais ce pouvoir, celui de la pensée, doit être développé, il doit être dévoilé, c'est-à-dire le voile, c'est notre chair. Il doit être cultivé, parce qu'il existe d'autres esprits qui ne sont pas omniprésents, mais qui sont des mauvais esprits qui peuvent que vous pouvez attirer si vous ne faites pas attention. Et si vous laissez vos pensées vagabonder comme elles veulent, ou comme les gens voudraient que vous pensiez, alors ils vous influencent En ce moment, c'est la grande mode des influenceurs et des influenceuses. Mon Dieu. Je vois ça sur Facebook, mais je ris, mais je ris. Donc, pour développer, pour dévoiler, pour cultiver votre pouvoir intérieur, vous devez être réceptif, c'est-à-dire recevoir ce que le Saint-Esprit vous inspire, mais pour pouvoir recevoir ce qu'il vous inspire, il faut l'écouter. Le vrai pouvoir du disciple de Jésus vient de l'intérieur, le Saint-Esprit qui est en vous, et un disciple éveillé à la vérité, c'est-à-dire à la présence de Jésus en lui, affirme son unité avec lui. Mais il ne l'affirme pas seulement en parole, il l'affirme en acte. Il agit d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'auparavant, il a des pensées qui sont celles de Jésus-Christ. Ayez en vous la pensée de Christ. C'est pas écrit ? Si. Un disciple ne peut pas prétendre être en communion avec le Saint-Esprit s'il passe 10 heures par jour à entretenir des pensées profanes, négatives, pleines d'incrédulité, de doute, de peur, d'auto... destruction, non. Et puis 10 minutes de prière par jour, c'est pas suffisant. Hein. Prier sans cesse, toute la journée, tout le temps. Non, mais avoir cet esprit de prière, de penser à Jésus tout le temps, d'être à l'écoute de Jésus tout le temps. J'ai constaté, en parlant avec certains pasteurs, qu'il y en a qui prient même plus. Ils prient juste aux réunions, c'est tout. On sent des grands cris en sautant, en se roulant par terre. Vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire Jésus. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Vous connaîtrez la vérité, le Saint-Esprit qui est en vous. Et il vous affranchira des choses extérieures. Futile, idiote, mauvaise, médiocre, méchante. Vous voyez ? Toutes les erreurs, elles sont dues à l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Toutes les erreurs sont dues à l'ignorance. Et le peuple de Dieu baigne dans une ignorance absolument incroyable. Là, je regardais avant de venir ici, sur YouTube, il y a un type qui dit « Dans 18 jours, Jésus revient ». Eh bien, tout de suite, je sais que c'est faux. Pourquoi ? Parce que je connais la parole de Dieu. Il y en a un autre qui a dit « J'ai vu Hitler en enfer ». C'est faux. Il n'y a personne en enfer pour le moment. Le diable, tout ça, ils vont être jetés dans les temps de feu après le jugement dernier du grand trône blanc. Mais pour le moment, il n'y a personne. Dieu est en train de l'arranger. Il est en train de le construire, l'enfer. Je crois qu'il doit être en train de faire des nouvelles chambres parce que il y a de plus en plus de candidats. Obtenir la connaissance de Dieu et de son pouvoir déterminera la croissance de votre vie. Il y avait un homme qui me paraissait très gentil, qui m'écrivait, un pasteur d'Afrique, et puis je me disais, mais c'est quand que ça va venir, et puis... Ben, c'est venu cette semaine. Frère, on a eu 134 personnes qui sont converties, on manque de Bible, est-ce que vous pourriez pas pourvoir pour eux ? Je l'ai bloqué. Dis à ces nouveaux convertis de s'acheter des Bibles. Ils s'achètent bien des cigarettes, des téléphones. Je sais comment c'est en Afrique, ils ont tous leur téléphone. Je sais. Alors ils peuvent bien s'acheter une Bible. Pourquoi ce serait toujours les Blancs qui... Non. J'ai même pas discuté. J'ai dit, ah, ça y est, nous y voilà. La mendicité, hop, bloquée, terminée. Vous me dire, t'es dur. Oui, je suis dur. Parce que j'en ai marre. Je veux pas m'encombrer avec des choses comme ça. Je veux pas. Obtenir la connaissance de Dieu et de son pouvoir déterminera la croissance de votre vie parce qu'il vous rendra intelligent. Vous vous mettrez à porter beaucoup de fruits, c'est-à-dire des résultats valables qui demeurent, que vous pourrez distribuer autour de vous, qui feront plaisir aux autres. Et même, vous porterez du fruit hors saison. Jésus trouvait anormal que le figuier ne porte pas de fruits, pourtant ce n'était pas la saison. C'est ce qu'il lui a fait au figuier. Vous savez ce qu'il lui a fait au figuier? Allez lire dans la Bible, vous allez voir. Vous porterez du fruit en toute saison. Même quand tout autour de vous semble aller de travers, vous porterez du fruit, vous. On verra la différence entre les enfants de Dieu et les autres. La présence du Saint-Esprit en vous, c'est le pouvoir spirituel. Vous savez, le mot âme, les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire. Le mot âme, ça veut dire être. Eh bien, le pouvoir spirituel, c'est l'âme, l'être de tout l'univers. C'est spirituel. Tout est spirituel. Les gens sont étonnés quand je leur parle de guérison divine. Ils disent, c'est fini le temps des miracles, maintenant on a des médecins et tout. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Parce que c'est lui qui donne la vie aux choses, à nos tissus. Mais merci Seigneur pour les médecins qui font des choses fantastiques. Moi, sans les médecins, je serais mort. Mais Dieu n'a pas voulu. Il m'a permis de rencontrer les bons médecins, hein, chérie. Et la connaissance de Dieu et de son pouvoir, ça ne vous tombe pas miraculeusement du ciel. Non. Cette connaissance, elle est le résultat de la capacité que vous avez de penser, de réfléchir, de méditer et d'imaginer. Vous avez quelque chose à faire. Ne laissez pas vos pensées vagabonder. Elles sont aussi importantes que vos prières. On va relire Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, prions ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Alors, c'est très bien, c'est l'apôtre Paul qui écrit et il fait des phrases à rallonge avec des virgules et tout. Alors, les gens ne comprennent pas très très bien ce qu'il veut dire. Alors, j'ai une autre version, c'est la version d'Alfred Kuhn, que j'ai eu le privilège de rencontrer, un homme adorable. C'est un Suisse. Je vais vous lire dans cette version ce qu'il dit, comment c'est écrit. C'est en français courant. Alors, Éphésiens 3:20, voilà ce qu'il est dit. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ à travers toutes les générations jusqu'au temps infini du monde à venir. Alors, quand on lit ce texte, la question qu'il faut se poser, c'est à qui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ à travers toutes les générations, jusqu'au temps infini du monde à venir. Ben, à lui soit la gloire, à qui? À Dieu! À celui qui vit en nous! À celui qui agit en nous! Alors, je relis. à celui qui, par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire à Dieu, revienne toute la gloire, etc., etc., dans l'Église. Etc. À Dieu revient la gloire. Vous voulez glorifier Dieu ? Ben, commencez déjà par être maître de vos pensées, arrêtez d'être négatif. Car il peut réaliser, c'est ce qui est écrit, qu'est-ce qu'il peut réaliser ? Infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander, ou que notre imagination ose espérer. Ah, voilà, lui, il a osé marquer imagination. Merci Alfred Kuhn. Parce que c'est pareil, penser, imaginer. C'est... Ce qui déclenche le pouvoir de celui qui vit en nous, ce sont nos prières et nos pensées, ou notre imagination, suivant les versions. Mais c'est pareil, penser ou imaginer. Je vais vous dire, pensez à la tour Eiffel, hop, ça y est, vous la voyez en pensée. Vous l'imaginez. Donc, ce qui déclenche le pouvoir de celui qui vit en nous, c'est-à-dire Dieu, c'est le pouvoir de nos... C'est parce qu'on prie et parce qu'on imagine, parce qu'on pense. Sinon, il ne fait pas. Demandez, vous recevrez... Vous avez demandé, mais vous n'avez pas reçu parce que vous n'avez jamais rien demandé en mon nom. Demandez en mon nom et vous recevrez. C'est ce que Jésus dit. Alors soyez en harmonie avec les bonnes pensées de Jésus qu'on trouve dans la Bible. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide à comprendre toutes ces choses. Et n'allez pas dire « Ah, Michel, il tombe dans la pensée positive. » Si vous pensez ça, vous pensez négatif. Allez, Dieu vous bénisse. Au revoir.